Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui ne connaît pas Glorious, pour ceux qui ne liraient pas la presse ou n'écouteraient pas assez Radio Présence, Glorious est un groupe de pop louange chrétienne. Un groupe symbole de la musique chrétienne contemporaine en France, mais qui, pourtant, ne sont pas les seuls, loin de là. Pour nous aider à entrer dans cette jungle passionnante et pas si dangereuse que cela, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Samuel Bonnour, qui est responsable d'antenne de Phare FM à Montauban, radio voisine de la nôtre, radio évangélique connue pour la qualité de sa programmation musicale. Alors, Samuel Bonnour, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Bienvenue dans nos locaux. C'est la première fois que vous venez ou...
Je suis déjà venu dans vos studios et au micro en direct. Une première et très ravi d'être là, puisque comme vous le disiez dans votre introduction, on peut s'appeler Radio Sœur, Radio Ami, et très heureux d'être là avec vous ce matin en tout cas.
Bienvenue en tout cas. Alors, on vous a fait venir parce que on entend souvent, quand on parle de Radio Présence, parfois on nous fait des remarques sur notre programmation musicale, et on nous dit « Ah là là, mais Phare FM, c'est autre chose ». Alors du coup, aujourd'hui, on vous a invité pour nous aider à nous dégrossir sur le sujet de la musique chrétienne contemporaine. Dans cette première partie d'émission, l'idée, comme on en avait discuté en préparant cette émission, c'était de voir un peu d'où venait cette musique chrétienne, avec des illustrations. Donc essentiellement, ça vient des États-Unis, mais est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse de cette musique chrétienne dite contemporaine? Alors peut-être je préciserai en début d'émission que on laissera de côté en fait tout ce qui est musique sacrée contemporaine, voilà, ce qu'on peut pas tout aborder.
Voilà, tout à fait. On va parler musique populaire et plutôt que de musique liturgique, plutôt que de musique pour le culte, pour la messe, mais plutôt de musique qu'on va écouter dans sa voiture, qu'on va écouter à la maison. En tout cas, nous, à Phare FM, c'est la musique que nous passons à notre antenne. Une musique qui est abordable par tout le monde. Alors, si on veut parler de la genèse, de la musique chrétienne contemporaine, il va falloir changer de continent. Sur notre vieux continent, la musique chrétienne contemporaine et populaire n'a pas vu le jour, on va dire, avant les années 90. Il va falloir remonter aux années 60-70 et changer donc de continent, comme je le disais, pour aller sur le continent américain, vous vous en doutez. Même la musique, on va dire, non chrétienne, aujourd'hui est fortement influencée par nos amis américains et anglophones, et la musique chrétienne ne déroge pas la règle. Et si on veut parler du début de la musique chrétienne, il va falloir se tourner vers nos amis américains, et plus particulièrement...
Évangélique aussi particulièrement.
Et particulièrement évangélique, oui. États-Unis, comme on en parlait quand on préparait cette émission, le milieu catholique reste un milieu très normé, très cadré. Et du coup, la musique dans les milieux catholiques n'a pas pu s'émanciper, j'allais dire, et sortir du cadre. Alors que dans le milieu évangélique, avec la façon de faire le culte, la façon de faire la messe, si vous préférez, la musique a pu s'émanciper et ainsi aller sur des terres un peu inconnues, mais des terres plus connues justement pour aller rejoindre le contemporain avec de la musique populaire.
Est-ce que vous pouvez nous dire exactement comment c'est né? C'est-à-dire, enfin, un jour, il y a quelqu'un qui a pris sa guitare lors d'un culte et qui a commencé à jouer tout simplement avec des instruments modernes et contemporains. C'est comme ça que c'est né ou...
Je pense qu'il est difficile de dire comment c'est né à un point donné. Je pense qu'on peut dire que c'est né d'un mouvement collectif et d'une envie de faire la pratique religieuse autrement avec une musique qui va parler à tout le monde. Plus une musique qui parle, on va dire, aux chrétiens, à ceux qui connaissent la foi, mais une musique qui est tournée vers ceux qui ne connaissent pas la foi, et une musique qui s'ouvre à l'autre. Alors ça va être plusieurs chanteurs, plusieurs groupes qui ont fait que la musique a pu s'émanciper. On va parler peut-être...
On va citer quelques exemples et puis on va passer quelques extraits. Oui,
de quelques extraits peut-être déjà. Alors on va parler peut-être plutôt dans les années 80 de musique rock et de musique qui s'est ouverte au milieu du rock, on va dire, des années 80 avec un groupe qui s'appelle Petra. Par exemple, je crois que vous avez le son de Petra.
Petra, on a ça en régie. Je fais signe à Christophe. Petra, tu peux lancer Christophe. Merci.
Voilà, vous reconnaissez les guitares.
Ah,
Oh là là, on est sur un son vraiment années 80. On est sur un son, vous avez reconnu les guitares saturées, les guitares électriques. Voilà, ça c'était l'ouverture sur le milieu rock. Il y a eu ensuite un groupe qui s'appelle Newsboys, peut-être un peu plus populaire, un peu plus soft. On peut écouter peut-être Newsboys.
Newsboys.
Alors on est sur des choses un peu plus modernes. Et puis si on veut illustrer par un troisième artiste, après Petra, après Newsboys, dans les années 90, c'est un monsieur qui aujourd'hui fait toujours de la musique, bien sûr.
Qui est toujours très connu en l'occurrence.
Qui est toujours très très connu, il s'appelle Michael W. Smith. Donc on peut écouter, oui.
On a choisi un vieux titre, hein.
Voilà, on reconnaît bien la voix de Michael W. Smith, très particulière. Voilà, si on a pu illustrer
Pourquoi vous avez choisi ces trois-là, en fait? Parce que c'est trois figures emblématiques, c'est des styles différents, c'est...
Voilà, trois styles différents, trois figures emblématiques, comme vous le disiez. Et puis, des personnes qui ont marqué l'histoire, dans le sens où ils ont révolutionné aussi la musique chrétienne contemporaine. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer la musique chrétienne contemporaine à un autre niveau, à un niveau professionnel, avec des paroles, avec de la musique qui a donné envie d'écouter plus. Et ils ont vraiment révolutionné la musique dans les années 80, et ils sont toujours là présents aujourd'hui. Même Petra a ressorti des albums encore récemment.
Ils ont quel âge maintenant, Petra?
Petra, je pense qu'il doit avoir la soixantaine aujourd'hui.
Mmh. C'est presque les Rolling Stones.
Ouais, un petit peu, on peut dire ça, ouais, comme ça. Après, voilà, aux États-Unis, même s'il y a tout ce phénomène de starisation, dans le milieu chrétien, voilà, on va pas non plus parler de Rolling Stone chrétien, mais voilà, c'est des gens connus, oui.
Alors, est-ce que ça a eu un effet justement sur les cultes, sur l'évangélisation? Est-ce que c'était le propos aussi de ces groupes? Est-ce que l'idée c'était juste de faire de la musique sacrée, enfin autre, d'animer les cultes autrement, ou alors aussi de pouvoir rejoindre le grand public? C'est ce que vous avez l'air de dire. Et est-ce que tout de suite, en fait, c'est parti comme une traînée de poudre et ça a rencontré un grand succès, y compris en termes d'évangélisation?
Oui, aux États-Unis, c'est vraiment ça. Voilà, ça a été dans l'évangélisation pure, pour s'ouvrir à l'autre, pour s'ouvrir aux gens qui ne connaissaient pas forcément la foi. Et grâce à la musique, on va dire populaire, ces gens-là ont pu toucher un public qui ne touchait pas dans leurs églises. Alors du coup, oui, pour répondre à votre question, ça a été dans l'évangélisation, et ça a été derrière une traînée de poudre, dans le sens où, par exemple, ces trois groupes ou chanteurs ont pu susciter de nouveaux artistes aussi. Je sais que dans leur façon de faire et dans leur musique, ils ont été beaucoup dans la transmission aussi. C'est-à-dire qu'ils ont encouragé des jeunes artistes, ils ont encouragé les églises à continuer et à développer la musique chrétienne contemporaine. Évangélisation et transmission en interne aussi, ça a été un facteur très important dans le domaine de la musique chrétienne contemporaine au tout début des années 90, quoi.
Et ça se passait comment? C'est-à-dire qu'en fait, du coup, les concerts étaient donnés dans les lieux de culte, ou au contraire, ils donnaient des concerts à l'extérieur? C'est
plusieurs formes, tout à fait. Et ça a commencé forcément dans les églises, pour que ceux qui écoutent la musique chrétienne soient touchés en premier. Mais c'est vrai que ça s'est développé ensuite avec des festivals, par exemple, aussi. Des gros rassemblements. Ça, c'est venu aussi après en Europe. Ça, vraiment, tout ce phénomène venu des États-Unis a vraiment contaminé l'Europe. Et des concerts en extérieur, oui. Aux États-Unis, vous savez que tout est beaucoup plus grand que chez nous. Alors du coup, ça a été des centaines et des milliers de personnes, même dans des stades, des fois... des concerts comme on peut voir avec des stars, mais dans le milieu chrétien, ça s'est beaucoup fait, oui, avec des concerts dans les stades, les grandes salles.
Est-ce qu'il y a d'autres pays comme ça qui sont un peu à l'origine de ce renouveau musical? Ou est-ce que depuis, il y a quelques pays phares comme ça? On pense par exemple à l'Australie. Alors on imagine que c'est une émanation des États-Unis, entre autres avec ce groupe là, Hillsong, qui est aussi très connu.
Ouais, alors là, Hillsong, on est beaucoup plus contemporain puisque ça a débuté fin des années 90 et ça s'est vraiment développé au début des années 2000.
D'accord. En tout cas, tout est parti des États-Unis. Il n'y a pas eu en même temps des naissances ailleurs, je sais pas, un style de musique contemporaine, chrétienne, latino-américaine ou.
Après, ça s'est développé dans les autres pays avec la culture des pays. Tout à fait. Quand vous parlez des Sud-Américains, ils ont leur style, leur façon. Forcément, déjà par la langue, hein, en espagnol souvent. Et puis les Australiens ont leur culture. Et puis nous, les Français, on a notre culture aussi. Mais vraiment, les pionniers, ça restera les États-Unis.
Alors, on va faire une pause, on va réécouter le morceau de Michael W. Smith, et puis après, on parlera de l'arrivée de ces pionniers, ou quels sont les pionniers en France, et aujourd'hui, quels sont les groupes qu'il faut connaître.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, nous parlons de musique chrétienne contemporaine avec ce titre, la musique chrétienne contemporaine pour les nuls. Alors voilà, les nuls, parfois nous en sommes, en tout cas c'est presque mon cas. Du coup, je suis très heureux de recevoir Samuel Bonnour, donc, qui est responsable de l'antenne de Phare FM, radio sœur, comme il disait en introduction, radio évangélique basée à Montauban. Peut-être pouvez-nous dire un mot, Samuel, avant qu'on parle de l'arrivée en France de toute cette musique chrétienne contemporaine de Phare FM. Phare FM, c'est le premier réseau de radio évangélique en France. En deux mots, c'est né quand? Vous êtes combien?
Voilà, le collectif de radio Phare FM a pour début l'Alsace, du côté de Mulhouse, avec une radio qui s'appelait Radio Phare et qui a changé de nom pour passer, pas trop, hein, Radio Phare est passé à Phare FM en 2001. Et en 2005-2006, une idée est venue avec les précurseurs de former un collectif de radio, un réseau de radio. Et ça a pris forme concrètement en 2007, avec un réseau Phare FM qui a été créé, avec plusieurs villes en France, en Montauban, en Grenoble, Lyon, en Haute-Normandie, à Louveteau, aujourd'hui à Haguenau en Alsace.
Donc ça fait une vingtaine d'antennes, c'est ça ?
Non, ça fait 7 fréquences.
7 fréquences, pardon. D'accord.
Ça fait 7 fréquences en Belgique, à Mons, bientôt en Suisse, la fameuse RNT, Radio Numérique, à Paris aussi. Voilà, Phare FM sur un format musical, donc c'est vraiment notre créneau. Et puis c'est bien aussi, puisque c'est complémentaire de d'autres radios chrétiennes, de la vôtre par exemple. Personnellement, j'aime beaucoup cette diversité de se dire, voilà, dans les radios chrétiennes, on peut être amis et s'entendre et se parler, même être invités les uns chez les autres, et je trouve ça super. Et je vous remercie encore pour cette invitation. Il faudra que vous veniez chez nous maintenant.
Bah écoutez, pas de problème. Il faudra que nous inviter pour parler autre chose que de musique chrétienne contemporaine. Quoi qu'il y en a peut-être qui sont très calés ici. Je vous demandais aussi en préparant cette émission, est-ce que les radios chrétiennes se développent comme les temples évangéliques ou les lieux de prière évangéliques? Alors vous me disiez pas tout à fait. Quand même, il faut rappeler que le milieu évangélique en France touche énormément. Les classes populaires, hein, surtout, peut-être pas exclusivement, vous me direz, et que on lit régulièrement dans la presse, on parle d'une vague évangélique, c'est-à-dire que peut-être parfois chez les catholiques on n'en a pas conscience, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles de prière, de temples qui s'ouvrent. On dit même en région parisienne que ça serait parfois un par semaine. Alors bon, est-ce que ce sont des chiffres de journalistes? Enfin, vous pouvez nous dire un mot peut-être de ce monde, même si c'est pas l'objet de l'émission,
oui,
ce monde frais en fait, mais qui est un monde qui n'est pas du tout marginal.
Tout à fait. Peut-être une église par semaine, c'est vrai que c'est un peu... ça fait beaucoup. En tout cas, le mouvement évangélique, oui, en France, se développe avec le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, notamment, qui est bien représenté maintenant au niveau de l'État. Le mouvement évangélique commence vraiment à se structurer. Et dans cette structure, il y a quand même une liberté, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'ouverture de beaucoup de temples et d'églises, mais pas forcément normés les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous pourrez avoir une église qui a une liturgie un peu plus libre, une autre un peu plus serrée, mais voilà, toujours dans ce mouvement d'ouverture, dans ce mouvement d'évangélisation, dans ce mouvement d'ouverture à l'autre, dans le social, dans l'évangélisation, dans l'ancrage, dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, le mouvement évangélique s'inscrit vraiment dans une dynamique et veut parler à la société et se rapprocher de la société et lui ressembler, voilà, tout simplement. Ouais.
Et du fait, le milieu évangélique, touche essentiellement des classes populaires, c'est juste, ou est-ce que c'est pas exclusif, mais... Parce qu'on dit souvent de l'église catholique, aujourd'hui c'est une église en France qui a tendance à devenir assez bourgeoise, entre guillemets, hein, qui peut apparaître comme étant un peu élitiste, alors qu'au contraire, les évangéliques comme les musulmans, même si évidemment il ne s'agit pas de comparer, eux seraient beaucoup plus accessibles et toucheraient plus facilement ces milieux populaires.
Je ne sais pas si on peut faire, c'est pas un raccourci qu'on fait évangélique vers les milieux populaires, en tout cas voilà... La volonté des églises évangéliques, c'est de s'adresser à tout le monde et de se rapprocher aujourd'hui des faits sociaux, de se rapprocher de l'autre et de lui parler comme il parle tous les jours. Et j'en reviens à la musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la musique chrétienne contemporaine veut se rapprocher aussi de la musique que tout un chacun va écouter chez lui. Et c'est là où tout le travail aujourd'hui est à faire dans la musique chrétienne, c'est que la musique doit se professionnaliser, doit être de plus en plus belle, et les églises évangéliques se développent. Pourquoi ? Parce que on va se rapprocher de celui qui est à côté de nous, de notre voisin, de notre collègue de travail, et on va se rapprocher de lui pour lui dire qu'il y a une solution en Jésus-Christ et que dans l'église il ne sera pas jugé, il peut venir comme il est. Vous connaissez le slogan de McDo, venez comme vous êtes. Et bien, dans les églises évangéliques c'est un peu ça, venez comme vous êtes. Alors ça va s'adresser aux classes populaires, mais ça va s'adresser aussi aux autres classes. Venez comme vous êtes, c'est un peu ça le slogan des églises évangéliques.
Alors sur la musique, donc cette musique chrétienne contemporaine en France, ça, elle a fini par arriver en France ou par se développer en France. Alors est-ce que c'est les Américains qui ont débarqué en France, est-ce que c'est des Français qui sont les États-Unis, ou est-ce que un jour il y a un groupe qui a émergé comme ça? Vous citez à ce titre en fait EXO par exemple. Alors est-ce que voilà. Vous pouvez aller nous parler peut-être de ce pionnier en France qui est EXO?
Alors EXO, un pionnier en France, une musique francophone faite par un Américain. c'est un peu paradoxal, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a eu à cœur la francophonie, la France en particulier, avec...
C'est-à-dire que c'est un Américain qui a débarqué en fait en France et qui est venu intentionnellement pour populariser cette musique ou...
Non, il connaissait déjà la France, il s'appelle Chris Christensen avec sa femme. Deux ont formé un trio avec un autre chanteur qui s'appelle Thierry Ostrini. Ils ont formé à tous les trois ce groupe EXO. Du coup, avec une culture musicale anglophone, c'est-à-dire de bonne qualité par rapport à la nôtre, il a su mettre des paroles en français sur une musique contemporaine. Et c'est là où ils ont fait fort, parce qu'avec une musique contemporaine, une musique que tout le monde va reconnaître, il a su mettre en texte des textes de la Bible, des paroles chrétiennes, des paroles engagées, avec une jolie musique. Et c'est pour ça que ça a marché. Parce qu'avec cette logique-là de professionnalisation, de production aussi, c'est-à-dire qu'ils ont fait des CD, des albums à l'époque, qui sortaient du commun de la musique qu'on connaissait dans les églises. Et ils ont attiré beaucoup de monde par cette qualité-là.
On peut peut-être écouter un extrait.
Allons-y.
Tout le monde saute de joie. Jump, jump, jump. Tout le monde lance des cris. Car notre Dieu est roi. Il est roi. Tout le monde frappe des mains. Tout le monde saute de joie.
Voilà, ça c'est la voix de Chris Christensen, voilà, EXO. C'est lui qui composait la plupart des chansons. Je dis qui composait parce que malheureusement ils ont arrêté assez récemment leur activité.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus en âge de continuer ou...
Non, pas plus en âge, mais je pense qu'il y a des temps dans la vie, il y a un temps pour chacun, et je crois qu'ils ont été dans un temps où ils ont développé la musique chrétienne et ils ont laissé un peu la place, on va dire, à des nouveaux groupes et voilà, je pense que c'est bien aussi d'avoir pu susciter aussi des envies auprès d'autres. Et là, aujourd'hui, ils ont arrêté de produire. Mais vraiment, je tenais à parler d'eux dans le sens où c'est surtout ce groupe-là qui a influencé toute une vague derrière eux, de groupes, de même d'artistes solo, bien sûr.
Alors peut-être avant qu'on parle de tous ces groupes, je vous pose la même question que j'avais posée pour les États-Unis, c'est-à-dire ils sont arrivés quoi? Ils sont arrivés dans les églises, ils ont dit toc toc, voilà, nous on a un groupe, ou alors au contraire ils ont invité dans des salles de concert et ils ont poussé les églises justement à battre leur appel pour inviter des gens dans les salles de concert. Enfin concrètement, je sais que c'est souvent une de mes questions. Concrètement, Monseigneur Le Gall m'a taquiné avec ça dans une émission précédente, mais c'est pour imaginer ou pour visualiser ce qui a été cette histoire en fait.
Bien sûr, je comprends le sens. C'est bien d'illustrer en radio aussi, un peu donner des images.
On voit le confrère. C'est...
Voilà. je pense que ça s'est fait naturellement en fait. Ils n'ont pas forcé la porte des églises. C'est-à-dire que c'est leur musique qui s'est imposée naturellement dans les églises, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, ils ont produit des CD, des albums de bonne qualité. C'est-à-dire que quand on entendait leurs chansons sur CD, qu'on les mettait à l'époque dans nos platines cassettes, de platines CD, même oui, il y avait même des cassettes à l'époque. Je veux dire, ça s'imposait tout seul. Ils ont été dans cette attitude-là, dans cette attitude de cœur, de dire nous, on s'impose pas, on est là parce qu'on a la musique à cœur. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu du forcing, on peut dire.
Ou de stratégie particulière.
De stratégie particulière, voilà, tout à fait. On est sur un mouvement qui a été naturel et un développement naturel. Et je pense que s'il y avait eu du forcing, je pense que ça l'aurait pas fait, en fait. Et ils ont été dans cette attitude de cœur de dire, voilà, nous, on a composé des chansons et on propose à l'église d'aujourd'hui nos chansons. Et ça a suivi tout seul derrière.
A suivi uniquement côté évangélique ou est-ce que ça a ouvert la voie aussi côté catholique? C'est...
Oui, moi, une petite expérience à Toulouse, là, on n'est pas loin, on y est. Je me souviens d'un concert d'EXO au Zénith de Toulouse avec des évangéliques, avec des bonnes sœurs, avec des prêtres.
Et, c'était quand ça?
Et on était tous ensemble. Alors c'était quand? C'était, ah ben voilà, bonne question.
Pas forcément l'année, hein,
mais c'était... C'est préparé.
C'est quand? Quand vous étiez adolescent vous-même ou?
C'était fin des années 90, début des années 2000. Début des années 2000. Et je me souviens d'un Zénith de Toulouse rempli. Rempli à ras-bord.
Et
avec...
rempli, le Zénith de Toulouse, c'est combien de personnes? C'est...
Ah, je sais plus. Ça devait être 3 ou 4 000 personnes.
3 ou 4 000 personnes,
ouais. Je sais plus.
Et donc, c'était complètement nouveau, en fait.
C'était assez nouveau et assez beau à voir, puisque les évangéliques, les catholiques, les protestants étaient rassemblés dans ce grand Zénith. Et du coup, moi, je me souviens, je me vois encore à côté d'une bonne sœur en train de danser, en train de louer Dieu. Et Exo, vraiment, c'est pour ça que j'en reviens à eux, Exo, ont été au tout début vraiment de la démocratisation de la musique chrétienne contemporaine. Et ils ont fait un peu partout, voilà, des grands concerts, des zéniths, ou même ils étaient prêts à faire des petites églises, alors que la veille, ils étaient au Zénith de Toulouse. C'est là où le groupe Exo a été un groupe pionnier, un groupe de cœur, dans le sens où ils savaient se mettre à la portée des gens. C'est-à-dire qu'ils savaient faire un grand concert dans un Zénith, mais ils savaient faire aussi des petites églises, peut-être à 30 ou 40 ou 50 personnes.
Alors après, comment ne pas parler de Glorious? Alors évidemment, Glorious, on en parle tout le temps parce que c'est un peu le groupe phare, même si évidemment c'est pas les seuls, c'est ce que je disais en introduction de l'émission. Vous pouvez peut-être nous dire un mot de Glorious, ou alors on va écouter un extrait. Alors il est peut-être inutile de les présenter, mais c'est quand même un phénomène très français. Alors peut-être qu'on va commencer, Christophe, par un extrait. Alors c'est pas celui-là, on va en chercher un autre.
Ou alors, peut-être avancer, peut-être c'est une introduction, mais qui ne reflète pas tout à fait Glorious en fait. Puisque Glorious est vraiment sur une musique populaire, contemporaine et très dynamique.
Alors c'était peut-être l'introduction. Alors soit on va trouver un autre passage, soit on en parlera sans forcément l'illustrer. Ouais. De toute façon, on l'entend souvent à l'antenne. En tout cas, bon, pour l'instant, Christophe ne trouve pas. Glorious, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil, en fait. Ils ont commencé par sillonner, ils se sont imposés progressivement. Mm-hmm. Et puis, à un moment, l'Église catholique, on va dire, s'est réveillée, s'en est saisie, puisque maintenant, ils sont accueillis par le cardinal Barbarin à Lyon. Ils sont même accueillis dans une église.
Par le pape aussi.
Par le pape, c'est vrai, récemment ils sont allés voir le pape, oui. Même si ça a fait un peu polémique, parce que derrière il y a eu des déclarations, bon, peut-être un peu malvenues. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui ils sont accueillis par le cardinal et ils sont missionnés en fait par l'Église de France. Ils ont même un statut dont je n'ai pas souvenir. En gros, l'Église leur dit, voilà, vous êtes lancés en mission, et ils battent la campagne, ils sillonnent la France, ils vont voir les collégiens, les aumôneries, etc. Ils font ce travail de labour de fond, où petit à petit la révolution s'installe. Alors vous, côté évangélique, vous regardez comment Glorious, sans parler peut-être de vos goûts personnels? C'est de fait un phénomène.
Bien sûr, je mets de côté mes goûts personnels dans cette interview. Et je crois que, comme je viens de parler du phénomène Exo, dans les évangéliques, je crois que le phénomène Glorious, c'est un peu pareil. Il s'impose de même. Et dans votre présentation, dans votre question, vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que maintenant, ils sont accueillis dans l'église à Lyon. Et de fait, ils se sont imposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené les foules, quoi. Je crois que j'étais aussi voir un de leurs concerts. Je veux dire, ça s'impose tout seul. Et ils s'adressent aux jeunes, et même aux moins jeunes, avec une musique fraîche, une musique qui n'est pas agressive, une musique populaire. Et du coup, Glorious, dans le milieu catholique, je pense, apporte une bouffée d'air frais phénoménale. Et ça développe l'église aussi. C'est-à-dire que je crois qu'à Lyon,
donc ils sont accueillis dans une église, c'est ce que je disais, hein, et où il y a en fait une assemblée de prières, qui est en fait une assemblée de pop louange, qui est, je crois, hebdomadaire, et qui draine en fait le tout catholique.
Jusqu'à un millier de personnes, je crois, ils arrivent hebdomadairement à rassembler des gens. Donc je crois que c'est un phénomène nouveau dans l'église catholique, rassembler millier de personnes une fois par semaine pour une messe, j'allais dire. C'est un phénomène nouveau.
Parce que ça aide à prier aussi. Alors c'est peut-être, vous pouvez nous dire, vous, quelle est votre expérience en la matière, puisque dans vos églises en général, la musique est plus, cette musique contemporaine est plus à l'honneur. Ça, vous, votre expérience, et puis peut-être celle de vos auditeurs, c'est que ça aide à entrer en relation avec Dieu, cette musique-là. C'est pas forcément un obstacle, comme pourraient l'imaginer certains.
Non, justement, ouais, c'est très juste ce que vous dites. Voilà, ça aide à la prière, ça aide à la connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que en musique, on parle des choses de Dieu. On peut proclamer des versets de la Bible. On retient plus facilement un verset de la Bible qui sera En musique, il sera chanté qu'un verset de la Bible qu'on va lire là comme ça, sur le papier ou sur notre tablette. Et c'est vrai que la musique, elle, ce qu'on dit, c'est qu'elle transporte l'âme. Et quand la musique est inscrite avec des paroles chrétiennes, eh bien, elle va transporter notre âme vers Dieu. Et du coup, c'est plus facile, oui. C'est une aide à la prière, une aide à la connexion avec Dieu. Et pour ma pratique personnelle, si vous me posez la question de ma pratique personnelle, j'allais dire que ce qui est intéressant dans la musique, c'est que c'est personnel et c'est collectif en même temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve à 20 personnes ou à 4000 personnes. Et grâce à la musique, on va se retrouver en train de prier, de louer Dieu, grâce à la musique qui va élever votre âme, qui va vous élever. Et dans ce sens-là, oui, ça aide et ça nous connecte avec Dieu.
Alors peut-être on va se repasser EXO, donc c'est pionnier en France, sauf si on a retrouvé Glorious entre-temps. Et puis après, en troisième partie d'émission, alors on parlera peut-être à ce moment-là donc de Luc Dumont et autres, et c'est-à-dire montrer évidemment qu'il n'y a pas que Glorious ou EXO, ces grands pionniers. Il y a d'autres influences, vous citiez donc Luc Dumont dont on va parler, qui est d'origine canadienne si je ne me trompe pas. Et puis il y a aussi de multiples styles musicaux, jazz, électro, etc.
Seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Bondissez, bondissez de joie. Seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Celui qui me libère, me remplit de sa paix. Il est grand, il est fort, il est bon, mon Dieu. Jésus seul est ma lumière, mon abri, mon rocher. Bondissez, bondissez de joie. Dieu, jouez, chantez pour votre Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Louez, dansez, bénissez Dieu. Venez, priez, acclamons-le. Venez, priez, acclamons-le.
Présence dans la cité mariale 96.
vivante église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, vous l'aurez compris, ou si vous nous rejoignez maintenant, je vous le rappelle, nous parlons donc de musique chrétienne contemporaine, avec cette question, la musique chrétienne contemporaine pour les nuls. Donc, on entend évidemment par musique chrétienne tout ce qui est pop, louange et autres, c'est ce qu'on va voir, venu des États-Unis, né dans les États-Unis, c'est années 80, années 90, hein, vous disiez.
Oui, de la popularisation, oui.
Voilà, Samuel Bonnour, hein, qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable, donc, antenne de Phare FM à Montauban, radio donc évangélique réputée entre autres pour sa programmation musicale. Dans cette troisième partie d'émission, l'idée avec vous c'était de voir que bon, on a vu, il y a ces pionniers américains, il y a eu ces premiers groupes en France, Exo, Glorious, il y a évidemment pas que, et il y a tout style de musique. Alors, vous vouliez nous citer entre autres, ça vous tenait à cœur, un certain Luc Dumont, qui est donc canadien. Voilà. Pourquoi vous vouliez absolument nous en parler ?
Pourquoi ça me tenait à cœur ? Dans le sens où on a parlé de Exo et de Glorious tout à l'heure, ce sont deux groupes, mais il y a aussi des artistes dits solo. Et Luc Dumont est venu en France avec un cœur pour la francophonie. Il aurait pu chanter en anglais, au Québec, ou aller faire une carrière aux États-Unis, mais non, il a choisi la France et la francophonie. Parce qu'il a eu à cœur de, et il a vu que la chanson chrétienne francophone avait sûrement besoin d'aller plus loin, et avec sa culture de nord-américain, il est venu avec sa guitare tout seul en solo, et il est venu sillonner les routes de France avec un son propre à lui. Peut-être on peut l'écouter.
Bien sûr. Alors Samuel, là, c'est un tout autre style, hein. C'est, voilà. Comme vous dites, c'est beaucoup plus solo, c'est plus intimiste, c'est plus, je crois qu'on dit acoustique, c'est ça, dans les termes. C'est entre guillemets une autre grande famille, c'est-à-dire qu'il y a, enfin c'est un, on a l'impression qu'il y a parfois deux grands styles musicaux, des styles assez, on va dire, exclamatifs, et puis d'autres plus intimistes. Est-ce que de fait c'est le cas aussi? On peut classer ces musiques chrétiennes contemporaines un peu dans ces deux grandes classes?
Tout à fait. On va dire qu'il y a deux classes. Il y a une classe horizontale et une classe verticale. Une classe horizontale, pourquoi? Parce qu'on va être tous ensemble. On va dire le nous sommes ensemble. Et il y a une classe verticale qui va s'adresser directement à Dieu. Je te donne, qu'on vient d'entendre, je te donne mon cœur. C'est souvent avec ces classes-là qu'on va retrouver les styles, c'est-à-dire que sur le style horizontal, ça va être un peu plus péchu, nous sommes, on y va, on envoie, et dans le jeu, voilà, on sera plus acoustique, plus calme, et plus direct vers Dieu.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme grand style? C'est-à-dire que la musique chrétienne a investi tous les styles musicaux, et puis peut-être, pour préciser, on verra en fin d'émission, ou après avoir présenté ces différents styles, que derrière musique chrétienne, il n'y a pas seulement ce qu'on appelle la musique confessante, c'est-à-dire où les paroles sont explicitement des paroles de foi ou d'annonce, mais il y a aussi beaucoup d'artistes chrétiens qui n'ont pas des paroles explicites ou confessantes. Mais restons sur les différents styles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette musique chrétienne, elle a investi tous les chants en France, en tout cas c'est les échos qu'on a aux États-Unis. Vous avez des bacs entiers de musique chrétienne jusqu'à du métal dur. Alors on finit par se dire, mais ça devient marketing en fait comme musique. Comme label ou comme
pour faire un parallèle avant de rentrer vraiment dans le sujet des styles, on voit aux États-Unis aussi tout un tas de radios et tout un tas de télévisions qui diffusent constamment de la musique comparé à nous où le réseau Présence, le réseau Phare FM, voilà, on va rester 3-4, ça va se compter sur les doigts de la main, alors qu'aux États-Unis il y a pléthore de web radio, de radio un peu partout chrétienne avec tous ces styles là, et c'est peut-être un jour ce qui arrivera en France, mais bon, c'est pas encore le cas.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis en tout cas, c'est une musique de masse.
Tout à fait. C'est une musique de masse dans le sens aussi où la musique chrétienne fait partie intégrante de la musique en général. Prenons un exemple. Les victoires de la musique en France. Est-ce qu'il y a une catégorie musique chrétienne ? Non. Aux États-Unis, les victoires de la musique aux États-Unis, il y a la catégorie des récompenses de la musique chrétienne pour expliquer que la musique chrétienne fait vraiment partie du paysage musical américain. Plusieurs fois, les artistes chrétiens sont au top du Billboard. Le Billboard, c'est quoi ? C'est les meilleures ventes de CD, les meilleures ventes digitales, numériques, de musique. Et certains artistes se retrouvent parfois au top du hit parade américain. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, ça a été très peu souvent le cas. Glorious a fait une petite apparition dans le top 3 à un moment donné. Mais voilà, ça reste confidentiel. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas rare que des artistes comme Toby Mac, des artistes comme Michael à l'époque, Michael W. Smith, ont été au top des ventes dans les CD aux États-Unis.
Alors, de fait, il y a quand même dans certains pays, en Europe en tout cas, des artistes chrétiens qui ont des paroles explicites de foi, qui font le top du box-office. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Entre autres, il y en a un que je connais quand même qui s'appelle Paddy Kelly. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez dire un mot de Paddy Kelly? Donc, non, ça vous... Bon, vous voyez, vous avez bien fait de venir.
Là, j'en apprends aussi, moi, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc c'est un artiste allemand qui, semble-t-il, c'est une famille de musiciens qui vient en France de temps en temps, entre autres à l'occasion d'un festival de musique chrétienne et d'évangélisation qui s'appelle Annuncio, et qui, semble-t-il, m'attendit, qui est de lui qui figure dans le top du box-office, peu importe.
D'accord.
Vous vouliez nous citer deux, trois autres exemples et nous faire écouter des extraits, entre autres de reggae avec les guetteurs. Vous pouvez nous dire peut-être pourquoi ce choix avant qu'on écoute un extrait.
Pourquoi ce choix ? Parce que dans l'actualité, tiens, ils ont été présents au Angels Music Award, première récompense de la musique chrétienne. C'était ce week-end d'ailleurs à Paris, et ils ont fait une belle apparition. Alors, ils font partie vraiment du paysage musical chrétien aujourd'hui. Ils sont catholiques d'ailleurs, je crois.
Alors juste les Angel Music Awards, vous pouvez dire un mot, puisque donc c'était une grande première cette année.
Oui.
Ça se passait à Paris, et donc c'est on s'est dit, voilà, comme il n'y a pas de prix, comme vous disiez, dans les victoires de la musique ou autre, on va créer notre propre festival, c'est ça ?
Voilà, et encore une fois, on en revient toujours à la même chose. L'idée est venue d'où ? L'idée est venue des États-Unis, forcément. Voilà. Les organisateurs, les trois organisateurs ont calqué vraiment cette cérémonie sur ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont calqué les codes, ils ont calqué même les récompenses, et moi je pense que c'est une bonne chose, et c'est une bonne chose aussi pourquoi, parce que ça va développer, ça va susciter des envies, ça va développer la façon de faire aussi, les productions, et il y a eu ces premières récompenses à la salle Wagram à Paris.
Et qui a remporté la palme, vous
alors,
saurez dire ou pas?
Oui, je vais savoir dire, on en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. L'album de l'année a été décerné à un certain Matt Marvan. Voilà, on en parlera tout à l'heure, je crois, à la fin de l'émission. Album de l'année de Matt Marvan. Les guetteurs ont fait une prestation en live, et je sais que ça a été assez apprécié. Et ça sort du commun, puisque du reggae chrétien. Waouh. Wow.
Alors on va commencer par écouter ça. Donc ça c'est le reggae, Samuel.
Voilà.
Alors vous vouliez nous présenter d'autres styles musicaux, peut-être un certain Wesley Blazers. Vous disiez que c'était de la funk électro.
Voilà. Alors,
déjà c'est quoi la funk électro pour les nuls, les super nuls que nous sommes?
Je crois que l'extrait sonore va parler tout de suite. C'est très actuel. Ça vient juste même de sortir. Là on peut pas être plus au fait de l'actualité. L'intro est un peu longue.
Tu es sans limite, remplie de bonté. Ta main se presse à nous conforter. Tu es sans limite. Ma joie est sans fin. Tu es toujours là. Je ne manquerai de rien, car je sais tout pouvoir tout bien.
Alors Samuel, pouvez-vous nous en dire un mot de Whistler Blazer? Peut-être qu'il y a que dans l'église Saint-Pierre des Chartreux, à l'occasion du festival Open Church, dans la Trième, qu'on pourrait passer ça. C'est pas demain la veille qu'on va passer ça dans les cathédrales de nos grands diocèses. Mais c'est pas forcément le but en même temps. Hein.
Bien sûr, chaque musique a sa place aussi. Alors Whistler Blazer, c'est tout nouveau. Et puis, ils viennent du Canada aussi, ils viennent du Québec. Deux DJ chrétiens qui ont mis en musique des paroles engagées sur une musique là pour le coup très contemporaine, puisque la musique électro c'est
la musique de boîte quasiment,
quasiment, mais maintenant voilà, musique qui va parler aussi, comme je le disais en tout début d'émission, qui va parler à une tranche d'âge aujourd'hui 18-25 ans qui n'écoute quasi que cette musique là aujourd'hui. Et le but, je pense, de Whistler Blazer, c'est ça, c'est d'aller chercher ces jeunes-là et de leur dire, écoutez, au lieu d'aller en boîte, venez en musique. Venez à l'église. Et à l'église, il y a de la bonne musique aussi, quoi.
Ça veut dire que vous passez Whistler Blazer dans vos temples à Montauban ou...
Non, à Montauban, en France, on n'est pas encore là à ce niveau-là. Mais, quoique, ça peut vite arriver. En tout cas, au Québec, il y a certaines églises déjà qui sont arrivées à ce niveau-là. Maintenant, c'est comme vous le disiez, c'est pas partout qu'on peut diffuser ce genre de musique. Dans un temple protestant, on va pas s'amuser, je pense, à passer ce style de musique. Dans une église évangélique très moderne et très jeune, oui, ok.
Alors, je me fais un peu l'avocat de non pas du diable, mais des grincheux. Mais forcément, on peut se poser une question. Il est dit dans l'Écriture et quand on fait l'expérience de la prière que Dieu parle dans le silence, dans la brise légère. Mmh. Alors, du coup, facile, vous me direz comme question.
Ouais.
Quand on voit toute la grande tradition monastique catholique, on se retire dans le silence pour écouter Dieu. Est-ce que de fait, on peut entendre Dieu vraiment dans ce type de musique? Est-ce que c'est une question de grincheux ou est-ce que vous y voyez quand même une subtilité intéressante?
Pas de problème, c'est très intéressant parce que ça ouvre un débat. Alors là, on pourrait faire une émission de 4 heures. Hein,
alors on va pas refaire une émission. Mais
je pense aussi que dans les Écritures, il est écrit « pousser des cris de joie ». Et c'est surtout dans les psaumes. Et David, le psalmiste, le dit « pousser des cris de joie, entrer avec joie dans son temple ». Et il y a ce côté-là aussi, je pense, dans la musique, dans le fait de l'expression même corporelle. David dansait de joie devant l'Éternel.
Et il dansait même nu.
Je sais pas.
Ou presque, puisque je crois puisqu'un de ses fils avait eu honte de lui et il avait été...
Oui, peut-être à une occasion festive, alors que le roi David peut-être avait un peu bu. Mais je pense que dans un état d'esprit profond, je crois que le roi David a réussi avec la musique, puisque c'était un musicien aguerri, vous le savez, avec sa harpe, avec ses cymbales. Et je crois qu'il y avait un peu de bruit dans le temple à l'époque avec le roi David. Alors oui, dans le silence, je suis tout à fait d'accord. Des fois, c'est très bien de s'adresser à Dieu dans le silence, mais il y a aussi cette part de joie, d'expression corporelle, expression de cri qui est nécessaire aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Et la musique, voilà, la musique, comme on le disait tout à l'heure, est un bon support pour s'exprimer devant Dieu et l'écouter aussi.
Alors, les Capital Kings ne seraient pas contents avec ma relance qui est peut-être un petit peu décalée, mais du bruit. Alors, du bruit à nouveau, les Capital Kings. Capital Kings, vous les citez aussi ce groupe, c'est de l'électro, voilà. C'est pareil, c'est du tout contemporain.
Tout contemporain, pourquoi aussi? Parce que c'est une référence aujourd'hui dans la musique chrétienne contemporaine.
D'accord, Capital Kings.
I'm the street lights that guide you home. I'll be the GPS when you've lost your phone. I'll be the song that's rocking in your headphones. I'll show you the signs to let you know you'll never be alone. Let me start it off by saying this. You mean everything to me, nothing I wouldn't risk. Every single second, a moment that passes by, I'm thinking about you and I really want you to know that there's something more out there. Something that will hold you very...
Alors Samuel, vous nous aidez à être plus qu'à la page avec ça. Moi, la question que je voulais vous poser aussi, parce que dans musique chrétienne contemporaine, on l'a dit, hein, on a exclu de l'émission au début un peu tout ce qui est musique sacrée plus classique, où il y a de fait un vrai renouveau aussi, y compris dans la musique dite liturgique classique, en tout cas chez les catholiques. Mais la musique chrétienne, c'est pas forcément une musique confessante. C'est ce qu'on disait. C'est où les paroles sont pas forcément, d'aucuns pourraient moquer en disant c'est la version contemporaine de Jésus revient, ce film bien connu. La vie n'est pas dans le fleuve tranquille. Il y a aussi des artistes qui sont chrétiens et qui font le choix de ne pas avoir des paroles explicitement de foi.
Tout à fait.
C'est aussi une autre grande tendance. Et est-ce que, peut-être pour finir, même s'il ne reste pas beaucoup de temps, vous pouvez nous donner quelques noms aujourd'hui? De ces artistes-là.
Bien sûr. C'est des artistes qui, dans leur milieu personnel, vont afficher leur chrétienté et ne se cacheront pas de leur foi, mais vont rester avec une musique qui va parler à tout le monde sans parole engagée. Alors je vais penser à Johan Frege. Johan Frege, pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être l'émission The Voice sur TF1 présentée par le fameux Nikos Aliagas. Mais écoutez, ce jeune homme qui a gagné la saison 2 se dit clairement chrétien. Et il le dit, il va à l'église, il est même dans une chorale gospel. Et quand vous écoutez ses albums, quand vous écoutez ses chansons, eh bien, il n'y aura pas forcément de paroles, comme on a entendu tout au long de l'émission, engagées et confessantes, mais des paroles simples, des paroles positives, fraîches, mais avec cette idée de dire, voilà, je veux m'adresser à tout le monde et ensuite témoigner de ma foi, mais à côté, pas forcément avec ma musique.
On écoute un extrait.
Petite aile, ma douce, mon hirondelle, va-t'en loin, va-t'en sereine, qui si rien ne te retienne, rejoins le ciel et les terres, laisse-nous, laisse la terre, quitte mon tour de misère, change du vole, vole, mon amour, puisque le nôtre est trop.
Alors Samuel, l'émission va toucher à sa fin, donc il faudra qu'on vous réinvite et souvent pour nous parler de toutes ces musiques. Vous pouvez nous dire un mot peut-être de cet artiste, même si c'est le cas. C'est vrai que quand on entend ça, on se dit il faudrait chanter ça sur le parvis des églises, ça serait formidable. Enfin, c'est une musique qui parle de la vie, en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi là que Dieu est, en fait.
Tout à fait, il veut s'adresser à tout un chacun et il témoigne au-delà de sa musique, voilà, il témoigne à ses producteurs, à tous ceux qu'il rencontre au fur et à mesure, à tout son personnel, voilà, il vit sa foi à côté de sa musique.
Alors je suis désolé, on est pris un peu par le temps, comme quoi il faudra faire une autre émission. En tout cas, merci beaucoup, vous nous avez aidé à rentrer dedans, à nous dégrossir, si je puis me permettre, ou en tout cas à nous faire entrer dans cet univers magnifique. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet radioprésence.com. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Merci Samuel, à bientôt j'espère. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain où nous parlerons d'un sujet plus sérieux mais tout aussi intéressant, le synode de la famille et la question de la pastorale des personnes homosexuelles.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.